La fête du bienheureux François Dardan et de ses compagnons est célébrée par l'Église le 2 septembre. Saint patron de la paroisse d'Asparin depuis 1998, François Dardan est né à Istueritz en 1733 et est mort en martyr lors du massacre de 191 ecclésiastiques au couvent des Carmes de Paris pendant la Révolution. L'abbé Philippe Beitia nous propose de découvrir l'histoire du bienheureux François Dardan.
Parlons tout d'abord de l'enfance et du ministère en Pays basque du bienheureux François Dardan. Le petit village basque d'Istueritz a donné un martyr à l'Église. L'abbé François Dardan, massacré au couvent des Carmes à Paris le 2 septembre 1792. À vrai dire, le visage attachant de notre héros n'est pas facile à dessiner, et les faits de sa vie sont obscurs et incertains, faute de documents. L'abbé Guillon, qui écrivait en 1821, le dépeignait comme un homme très doux et fort pieux. Mais, à la douceur, il savait allier la fermeté de caractère quand il s'agissait des droits intangibles de l'Église, comme le montra sa conduite pendant la crise révolutionnaire. Basque, il l'était par sa naissance et par sa langue. Il naquit en effet le 3 juin 1733 à Istueritz, dans la maison Charia, du mariage de Guillaume Dardan et de Jeanne de Lureau. Il fut baptisé le 3 juin 1733. François appartenait à une famille nombreuse. Il était le quatrième fils de Guillaume Dardan. Jeune encore, François entendit l'appel de Dieu. Il décida d'être prêtre. La vie de l'enfant très simple se partageait entre l'église, le petit oratoire de Sainte-Eulalie, lieu d'un pèlerinage local au mois d'octobre, les jeux de son âge avec les enfants du village et les tâches domestiques à Charia. François dut aller faire ses études au petit séminaire de La Ressort que venait d'ouvrir l'année même de sa naissance l'abbé Jean Daguerre. L'établissement dispensait même à partir de 1739 l'enseignement de la philosophie et de la théologie. François suivit le cours normal des études à La Ressort et y reçut successivement les ordinations qui devaient le conduire au sacerdoce, comme nous l'apprend le registre des ordinations du diocèse de Bayonne de 1728 à 1790. Il reçoit la tonsure le 24 mai 1755, les quatre ordres mineurs, portier, d'exorciste, d'acolyte et de lecteur, le 7 mars 1761, le sous-diaconat au titre du patrimoine, autrement dit, ce n'était pas l'Église qui le prenait en charge, mais il vivait des ressources de sa famille, le 16 mai 1761, le diaconat le 6 mars 1762, la prêtrise le 5 juin 1762. Il fit partie du corps professoral de cet établissement avant même son ordination sacerdotale. Il signe en effet en tant que directeur avec les abbés Daguerre supérieurs, Jean Sélaye et Jean d'Arquier d'Espelette, la lettre de présentation à la prêtrise d'un de ses confrères, Dominique d'Artaguiette, ordonné par Mgr d'Arche le 7 mars 1762. Il jouissait d'un certain prestige et d'une grande influence sur la jeunesse. Aussi fut-il vite distingué par son supérieur. L'abbé Daguerre, qui venait de faire construire la division, celle de la latinité jusqu'à la rhétorique inclusivement, lui décernant le titre de supérieur du petit séminaire. Celui-ci était en réalité le chef de la section des petits séminaristes. Combien de temps l'abbé Dardan a-t-il exercé le professorat à La Ressort? Une dizaine d'années sans doute, jusque vers 1770, s'il faut en croire une déclaration de pension qu'il rédigea lui-même en 1790. L'abbé Daguerre avait des relations étroites avec la capitale, ce qui va nous permettre d'envisager le ministère de François Dardan à Paris. Il avait des relations étroites, notamment avec les eudistes, qui tenaient à Paris un collège réputé, Sainte-Barbe. Il connaissait fort bien M. Gaillaud, docteur en Sorbonne et supérieur. Celui-ci demanda à l'abbé Daguerre un confesseur pour son collège. Le supérieur de la Ressort n'hésita pas à lui donner son plus proche collaborateur, l'abbé Dardan. Sainte-Barbe était le collège où avait étudié jadis un autre basque, François Xavier. François prit donc le chemin de Paris et s'expatria. Il emmena toutefois avec lui son frère Pierre qui devait l'aider. Il devait rester à Paris une vingtaine d'années jusqu'à son martyre. Il ne devint pas eudiste pour autant, mais fut prêtre aux eudistes, c'est-à-dire pensionnaire du séminaire de la rue des Postes, l'actuelle rue Laumont, appelée encore Hospice des Tourettes, maison dans laquelle les eudistes recevaient les prêtres de la province qui n'avaient pas de demeure fixe à Paris. Cet établissement comprenait une soixantaine de chambres, une chapelle domestique et un jardin de 3 arpents, c'est-à-dire de 175 mètres. Confesseur des élèves de Sainte-Barbe, François Dardan se trouvait à proximité, quelques 3 minutes, de ce collège. Voyons un peu maintenant comment le collège de Sainte-Barbe va être affecté par la Révolution. Les événements révolutionnaires devaient bouleverser cette vie tout entière consacrée à Dieu et aux âmes. Pour bien situer les faits, il est utile que nous nous arrêtions quelque peu sur l'attitude du collège Sainte-Barbe face à la Révolution. Dès le début, l'esprit révolutionnaire envahit la communauté Sainte-Barbe. Les idées nouvelles étaient entrées dans ces jeunes têtes. Plusieurs classes de Sainte-Barbe, la seconde surtout, qui était dirigée par un certain Lemaire, accueillirent avec transport la prise de la Bastille. Peu de temps après, un esclandre eut lieu à propos de manifestations patriotiques auxquelles les supérieurs voulurent s'opposer. L'un des étudiants en théologie tint contre la révolution des discours si violents qu'il fut dénoncé au dehors. La garde vint pour arrêter ce jeune, mais il fut soustrait aux recherches par la présence d'esprit d'un camarade qui lui arracha sa soutane de dessus le corps et l'affubla de ses propres habits. Les sentiments qui occasionnaient de pareilles scènes navraient le préfet des humanités. Il s'efforça de sévir, mais à la longue, l'effet de sa sévérité fut de provoquer un complot parmi les élèves qui se transforma en simple échauffourée, et ce qui fit chasser 4 élèves. Mais la mutinerie ne cessa plus, et la plupart des têtes se montrèrent tellement montées que le préfet des humanités démissionna et quitta la maison le 15 juillet. Voyons maintenant ce qui se passa d'un point de vue national. Le mouvement révolutionnaire qui commence le 14 juillet 1789 est dirigé essentiellement contre les abus de l'aristocratie. Le 12 juillet 1790, l'Assemblée constituante vote la constitution civile du clergé. Directement atteints par cette réforme, les prêtres sont divisés. Faut-il s'y soumettre ou non ? Ceux qui y étaient favorables n'y voyaient pas une question concernant directement la foi et les mœurs. Beaucoup d'autres, dont le supérieur et les prêtres du collège de Sainte-Barbe, s'y opposaient car ils voyaient là une manœuvre politique dirigée contre l'Église romaine avec l'intention de créer une Église nationale schismatique. Le 27 novembre 1790, l'Assemblée enjoint à tous les évêques, ex-archevêques, curés et autres fonctionnaires de prêter serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et d'observer de toute leur force la constitution promulguée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Il s'agit là du fameux serment constitutionnel dont le refus entraînera en 1792 la peine de mort. Les prêtres de France attendaient du pape une prise de position qui éclaira leur choix et détermina leur conduite. La réponse se fera attendre 8 mois. Le 10 mars 1791, Pie VI condamnerait la constitution civile du clergé, la déclarant sacrilège schismatique destructrice des droits de la primauté du siège apostolique et de l'Église. Pour un très grand nombre d'évêques et de prêtres, la ligne de conduite est nettement tracée. Ils refuseront de prêter le serment. Toutefois, un tiers du clergé, dont la moitié des prêtres des paroisses, avait entre-temps adhéré à la constitution civile du clergé, souvent en y mettant réserves et conditions. Apparaissaient ainsi en France 2 églises et 2 clergés. Durant l'hiver 1790-1791, des pressions toujours plus fortes s'exercèrent contre ceux qui n'avaient pas prêté le serment. Ceux qui le pouvaient ont fui à l'étranger ou se sont éloignés de leur paroisse. Un grand nombre gagne Paris, où ils vivent dans un anonymat relatif, sans exercer de fonction officielle du ministère. Cela leur permettait de se dispenser du serment. Ce qui explique aussi qu'un grand nombre de prêtres provenant des divers diocèses de France aient pu se trouver à Paris en 1792 dans des communautés de prêtres, chez les lazaristes, les eudistes ou les sulpiciens. Quelles vont être les répercussions de ces événements à Sainte-Barbe ? En janvier 1791, les prêtres Sainte-Barbe refusèrent encore le serment et entrèrent dans la catégorie des prêtres réfractaires. Le directoire du département nomma alors des remplaçants à tous les réfractaires et désigna l'un des membres pour installer les nouveaux élus. Ce fut fait le 25 avril 1791, où le professeur Lamaignan remplaça le supérieur M. Baduel. Les élèves assemblés dans la chapelle écoutèrent la notification de l'acte qui leur imposait ce nouveau directeur et ne voulurent pas en entendre davantage. Comme M. Lamaignan se disposait à lire un discours préparé pour la circonstance, ils s'échappèrent tous ensemble avec précipitation. L'un d'eux dit d'un ton élevé : « Nous ne reconnaissons que M. Baduel pour notre directeur. Si l'on veut nous forcer d'en recevoir un autre, nous nous en irons tous aujourd'hui même. » Le préfet des humanités, le directeur des hautes études et la plupart des maîtres interpellés à leur tour déclarèrent de même qu'ils étaient prêts à se retirer plutôt que d'obéir à une loi qui blessait leur conscience, de sorte que les élèves témoins de cette résistance s'enhardirent jusqu'à proférer les injures les plus violentes et contre la loi et contre ceux qui avaient mission de l'appliquer. L'officier municipal impuissant dut se retirer après avoir placé le collège sous la surveillance du commissaire de police. Et M. Lamaignan, ne voulant pas rester dans un poste où il était si mal reçu, se retira également. Les élèves, livrés à eux-mêmes, commirent toutes sortes de dégâts. Les boiseries des salles et des chambres furent mises en pièces, toutes les vitres des fenêtres brisées. Le lendemain ou le surlendemain, la municipalité apprit que dans la maison de Sainte-Barbe, abandonnée déjà par la plus grande partie de ses maîtres et de ses élèves pensionnaires, dévastée comme si elle avait été livrée à l'ennemi, une quinzaine d'enfants allaient rester sans personne pour les conduire et réduits au dernier dénuement. C'étaient les boursiers dont les familles habitaient loin de Paris. Le département, ne pouvant disposer d'aucune ressource, écrivit aux familles en octobre 1791 qu'elles eussent à retirer leurs enfants. La maison fut entièrement vide avant la fin du mois. La communauté était criblée de dettes. On procéda à la saisie de ce qui restait de meubles pour les vendre. Plus précisément, qu'étaient devenus dans cette aventure les confesseurs du collège parmi lesquels se trouvait François Dardan. Les confesseurs s'étaient retirés devant l'obligation qui leur avait été faite de prêter serment à la constitution civile du clergé. En septembre 1791, l'Assemblée législative reprend et accentue les projets antireligieux de la précédente Assemblée constituante, les poussant à leur paroxysme. D'autre part, de nombreux éléments contribuèrent à proscrire le culte romain et les prêtres qui n'avaient pas prêté le serment. Parmi ces éléments, il faut signaler principalement l'anticléricalisme militant des députés girondins, de la presse parisienne et des sociétés révolutionnaires. Le clergé était accusé de relations avec les royalistes immigrés qui avaient trahi la nation. Le 29 novembre 1791, l'Assemblée décrète que les ecclésiastiques qui n'auraient pas prêté serment dans les 8 jours se verront considérés comme suspects de rébellion et de mauvaise intention contre la patrie. Les défaites militaires et la menace d'une invasion exacerbent les esprits contre le clergé au printemps 1792. Le 20 avril, la France déclare la guerre à la coalition austro-prussienne et un groupe notable de prêtres français réfugiés à Rome obtient de Pie VI une déclaration en faveur des coalisés contre la France. Cette prise de position amène l'Assemblée à voir en chaque prêtre qui n'a pas prêté le serment un conspirateur et un ennemi de la nation le 27 mai. Louis XVI oppose son veto, mais cela reste sans effet. Suite à cela, une nouvelle vague de prêtres se réfugie à Paris, où ils continuent à se rassembler dans maisons religieuses et couvents. Le département de la Seine, étrangement, manifestera une évidente tolérance à leur égard. Le 20 juin 1792, la révolte populaire avait atteint le palais des Tuileries sans parvenir à faire fléchir le roi. Il maintenait son veto contre le décret et donnait la preuve explicite de son attachement à l'Église. Mais, deux mois plus tard, le 10 août 1792, l'Assemblée décrète la destitution de la monarchie, tandis que croît dans la capitale l'angoisse d'une invasion ennemie. Et aussi, par conséquent, une vague de haine contre les traîtres à la nation. Ce sera la première terreur qui ira en croissant jusqu'au mois de septembre. Durant la seconde quinzaine d'août, l'Assemblée accumule les lois d'exception destinées non seulement à supprimer l'aristocratie, mais aussi le catholicisme romain. L'Assemblée législative est, il est vrai, manœuvrée par la Commune de Paris. Ce qui oriente et provoque la colère du peuple. Même les parlementaires sont entraînés et laissent faire. Chaque jour, entre le 15 et le 31 août, sont publiés de nouveaux décrets qui visent les prêtres non-jureurs. Après le 10 août, un tribunal populaire est chargé de juger les crimes de ceux qui sont en faveur du roi et de sa clique, pour reprendre les termes. Le 17 est institué le tribunal qui devra juger tous les suspects coupables de trahison, le président né Robespierre. Ce même jour, la commune décide la suppression des simulacres bizarres qui ne doivent leur existence qu'à la friponnerie des prêtres, pour reprendre les termes. Avec les statues et les objets en métal des églises, on fabrique canons et armes. Le 18, l'Assemblée législative abolit les congrégations religieuses. Tout congréganiste devra prêter serment et une liste de noms devra être adressée tous les soirs à la Commune de Paris. Le 19 est adopté le principe de la loi de déportation dont on discute à plusieurs reprises. Le 26 août est voté un décret selon lequel les désordres provoqués d'un royaume par les ecclésiastiques non-jureurs sont l'une des plus grandes causes des dangers de la patrie. Les prêtres non-jureurs seront expulsés et devront réclamer leur passeport sous peine de déportation en Guyane. Les déportés se feront accorder des provisions pour le voyage. Ceux qui resteraient illégalement en France seront condamnés à 10 ans de détention. Tout ecclésiastique qui causera du désordre se verra appliquer ces mêmes dispositions. Les directeurs de district sont tenus de faire connaître ces dispositions à tout prêtre en lui intimant de les observer et de s'y conformer. Ces dispositions officielles, si elles n'expliquent pas seulement les massacres à venir, les préparent toutefois. Les clubs et sections révolutionnaires joueront un rôle déterminant, notamment celle du Luxembourg, où se trouvent de nombreuses maisons religieuses ayant accueilli beaucoup de prêtres. La capitulation le 26 août de Longwy et l'assaut de Verdun par les Prussiens susciteront une fureur populaire contre les traîtres, aristocrates et ecclésiastiques, qui atteindra son paroxysme. De fait, les massacres furent encouragés par la populace, mais la responsabilité de leur exécution retombe sur une vingtaine de fauteurs de troubles qui se sont mis à la suite de 200 de malfaiteurs. Le dimanche 2 septembre, Marat, dans son journal L'Ami du Peuple, écrivait ce qui suit. « Citoyens, l'ennemi est à nos portes. Il ne doit pas rester dans notre dos à Paris un seul ennemi qui puisse se réjouir de notre défaite. » C'était le signe des massacres. Ils commencèrent dès le début de l'après-midi. Nous savons que François Dardan fut arrêté dans la dernière quinzaine d'août 1792. Il fut conduit devant la section du Luxembourg, mais il refusa de prononcer le serment schismatique et fut dirigé sur le couvent des Carmes. Avec lui, 21 prêtres de la maison des Eudistes seront massacrés aux Carmes le 2 septembre 1792. Voici dans quelles conditions, selon l'un des témoins. Plusieurs présidents du comité avaient étendu de leur seule autorité les exigences légales. À s'en tenir au texte seul, devaient prêter le serment les prêtres fonctionnaires publics. Ils agirent comme si tous les ecclésiastiques y étaient assujettis. « Si vous aviez été soumis au serment, l'auriez-vous prêté ?» demanda le président de la section. À ce moment, Canon et Tocsin tenaient une partie de Paris dans la tristesse et la consternation, et l'autre dans tous les transports de la rage. Des municipes, au lieu de presser la convocation au Champ de Mars, dispersaient et plaçaient leurs bourreaux, leur donnaient les dernières instructions. Ce fut pendant tous ces préparatifs qu'on servit le dîner aux prêtres détenus dans l'église des Carmes. Un officier des gardes leur dit, en ce moment, et leur répéta plusieurs fois ces paroles, « Lorsque vous sortirez, on vous rendra à chacun ce qui vous appartient. » Les prêtres dînèrent tranquillement, et même avec encore plus de gaieté qu'à l'ordinaire. Les bourreaux étaient déjà cachés dans les corridors de la maison. La promenade fut différée. Les prêtres croyaient qu'il n'y en aurait pas ce jour-là. Non seulement on l'a permis vers les 4 heures, mais contre l'usage, on força les vieillards, les infirmes et tous ceux qui continuaient leur prière dans l'église à passer dans le jardin. Ils trouvèrent la garde doublée. Le jardin est un carré divisé par des allées en 4 compartiments. Au midi, les murs du couvent, à l'orient une partie de l'église, d'où l'on s'y rendait en traversant un corridor. À l'angle du nord et vers le fond était une espèce de chapelle ouverte, soutenue par des barreaux et dans laquelle toujours quelques prêtres se retiraient pendant la promenade pour ne pas cesser de prier en respirant un nouvel air. Elle se trouvait aussi fermée contre l'usage. L'officier de garde l'ouvrit à la demande de l'évêque de Sainte. Les 180 prêtres réunis dans ce jardin commençaient à s'y livrer à leur exercice ordinaire pendant la promenade, lorsque tout à coup un bruit se fait entendre au loin. C'était celui d'une partie des bourreaux qui traversaient une rue voisine en se rendant à l'abbaye. Ceux qui étaient cachés dans le corridor donnant sur le jardin ne se contiennent plus. À travers les barreaux des fenêtres, ils tendent contre les prêtres leurs baïonnettes et leurs sabres. Ils brandissent leurs piques en criant « Scélérat, voici donc l'instant de vous punir !» et en ajoutant 1000 imprécations. À cet aspect, les prêtres se retirent vers le fond du jardin, se mettent à genoux, offrent à Dieu le sacrifice de leur vie et se donnent mutuellement la dernière bénédiction. Les assassins entonnèrent leur chant. Le jardin retentit des féroces accents des Marseillais mêlés à tous les cris, à toutes les injures de la fureur, de la rage et au bruit de leurs armes. Un grand nombre de prêtres s'étaient réfugiés dans la chapelle. Là, attendant la mort dans un profond silence, leur âme toute unie à Dieu, ils lui offraient leur dernier sacrifice. Une partie des assassins vint les assiéger. Leurs fusils ou leurs pistolets à travers les barreaux et décharger leurs balles sur ce groupe de prêtres à genoux. Dans cet espace étroit, les victimes tombaient les unes sur les autres, en attendant le coup qui devait les frapper. Des prêtres encore vivants étaient arrosés du sang de leurs frères mourants, le pavé en ruisselé. Dans un champ moins resserré, le reste des forcenés et ivres de rage poursuivaient les prêtres épars dans le jardin, les chassaient devant eux, abattant les uns à coups de sabre, enfonçant leurs piques dans les entrailles des autres, faisant feu de leurs fusils et de leurs pistolets sans distinction sur les jeunes, les vieillards et les infirmes. C'étaient des tigres altérés de sang lâchés dans un enclos contre les victimes innocentes livrées à leur rage. Pour s'étourdir dans leur fureur, les uns continuaient le chant de leur carmagnole, les autres vomissaient les grossières injures de scélérats, de gueux et de voleurs. La tranquille assurance des prêtres au milieu de ces outrages, sous le coup de la mort, leur piété surtout ajoutée à la fureur des assassins. Ces derniers ne permettaient pas même à des victimes, si près de la mort, de l'attendre à genoux. Ils enrageaient de voir prier Dieu. « Levez-vous, hypocrites !» leur criaient-ils. Et en disant ces mots, ils les forçaient à se disperser. Ils leur donnaient la chasse comme à des bêtes fauves. Les mêmes voix, surtout celles du commissaire, appelaient les prêtres dans l'église en leur promettant qu'ils y seraient en sûreté. Les prêtres essayaient d'obéir. Une partie cessait de massacrer. Sourds à toutes les voix, même à celles de leur capitaine, d'autres paraissaient redoubler de rage, crainte de perdre leurs victimes. Dans cette horrible confusion, les uns poussaient les prêtres hors du jardin, d'autres les repoussaient dedans. Quelques parties qu'ils prissent, c'était des baïonnettes et des piques tendues contre eux. Ceux qui arrivèrent jusqu'à la porte de l'église la trouvèrent fermée. Enfin, il fut possible d'entrer. Les premiers arrivés se précipitèrent à genoux devant le sanctuaire. Les autres y couraient à travers des assassins qui, partis, les y chassaient et partis, continuaient à faire feu sur eux à mesure qu'ils s'en approchaient. Dans cette liste figure l'abbé François Dardan du diocèse de Bayonne, ancien confesseur au collège Sainte-Barbe des Eudistes, qui donna sa vie silencieusement en témoignage d'attachement à Dieu et à son Église à l'âge de 59 ans. À l'aspect de chacun de ces prêtres sortant du sanctuaire, les bourreaux poussent des cris de joie. C'est à qui portera le premier coup de hache ou de pique, de sabre ou de fusil. La victime assaillie au redoutable cri de « Vive la nation » est tantôt immolée sur le perron, tantôt précipitée au pied de l'escalier, et là percée de mille coups. Quand elle a cessé de respirer, de nouveaux hurlements de « Vive la nation » célèbrent la victoire et donnent le signal pour amener de nouvelles victimes. Monsieur Violette, le commissaire qui présidait au massacre, parlant deux jours après à ceux des prêtres qu'on avait arrachés à leur bourreau, mais qui étaient détenus à la section, leur disait dans un enthousiasme involontaire « Je me perds, je m'abîme d'étonnement. Je n'y conçois rien et tous ceux qui auraient pu le voir n'en seraient pas moins surpris que moi. Vos prêtres allaient à la mort avec la même joie et la même allégresse que s'ils fussent allés aux noces. » Le 1er octobre 1926, le pape Pie XI signait le décret de béatification portant que le fait du martyr est suffisamment constaté, de même que le motif du martyr des 191 serviteurs de Dieu. La cérémonie de la béatification eut lieu le dimanche 16 octobre 1926. L'oraison de leur mémoire, le 2 septembre, dans le propre du diocèse de Bayonne, porte ce qui suit. Seigneur notre Dieu, tu as donné la gloire du martyr au bienheureux prêtre François et à ses compagnons qui ont vaillamment défendu la foi catholique et les droits de l'Église. Accorde-nous à leur prière la force de ton esprit afin que nous demeurions jusqu'à la mort fidèles à ton service.
Merci à l'abbé Philippe Beitia de nous avoir parlé du bienheureux François Dardan, fêté par l'Église le 2 septembre, saint patron de la paroisse d'Asparin depuis 1998. Le bienheureux François Dardan est né à Istüritz en 1733 et est mort en martyr lors du massacre de 191 ecclésiastiques au couvent des Carmes de Paris pendant la Révolution le 2 septembre 1792.